Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la visite radiophonique de février avec Bénédicte Bougnol du Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan. Salut Béné.
Bonjour.
Et aujourd'hui pour nous accompagner, Cécile Fauchoteau, archéologue de formation, assistante de conservation du patrimoine au département de la Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Alors les filles, vous m'amenez où aujourd'hui ?
Eh bien Ludo, aujourd'hui on va prendre de l'altitude, prêt pour un bon bol d'air frais
et un voyage dans le temps.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandelot-en-Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Et bien pour trouver ce bol d'air frais, il faut faire de la route. Hein. On a eu pas mal de routes, 35 à peu près 40 minutes. On est arrivé, on est où ?
Alors là, on est sur la Champs des Bondons, à la frontière des trois communes, Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise, Hispaniac et les Bondons.
Alors, pour décrire un peu le paysage qui nous entoure, hein, la Champs, comme on l'appelle, hein, compose un paysage assez curieux, particulier hein, sur les flancs sud-ouest du Mont Lozère. On est ici sur un plateau. Alors ce plateau, il s'étend sur un peu plus de 6 km de long pour moins de 3 km de large et il culmine à environ 1200 mètres d'altitude. Et la particularité de ce plateau, c'est qu'il est mi-granitique, mi-sédimentaire. En fait, le plaquage calcaire est de même nature que celui du Causse de Sauveterre. Il vient se greffer en douceur au granit du Mont Lozère. Et ensuite, si on continue de regarder le paysage, au sud, on plonge sur les pentes granitiques et schisteuses de la haute vallée du Tarn. Au sud toujours, on aperçoit des buttes, on les appelle aussi des mamelons en marne noire, hein, qui ont résisté à l'érosion. Ce sont les célèbres puèches Mariette, Allègre et l'Esquinodase qui dominent l'ensemble. Ils ont été rendus célèbres par de nombreuses légendes, notamment la légende de Gargantua. Et c'est vraiment un paysage emblématique du département. Alors on découvre ici des pelouses sèches qui rappellent le Causse. Il y a aussi des prairies cultivées, des pâturages et de la lande à genêts sur la partie cristalline. La partie ouest du plateau a été largement reboisée en conifères.
Et là devant nous se dresse le menhir des trois paroisses. On est au centre de l'ensemble mégalithique des Bondons. Aujourd'hui on va donc parler de préhistoire et plus précisément du néolithique.
Voilà, et aujourd'hui, en ce jour, on enregistre, et il neige un peu, il y a un peu de brume. Voilà, c'est assez joli comme paysage béné.
Oui, mais il fait froid quand même. Hein. Alors Ludo, est-ce que tu as révisé les grandes périodes de la préhistoire ?
Alors, paléolithique, néolithique. Est-ce qu'on est bon ?
C'est tout ?
C'est celle dont je me souviens.
Ok, c'est pas mal. Alors, le terme néolithique, Ludo, il a été inventé par des historiens de la fin du 19e siècle. Il signifie l'âge de la pierre nouvelle, par opposition au paléolithique, qui signifie l'âge de la pierre ancienne. En France, on date le néolithique de 5700 à 2300 avant notre ère.
Donc, en fait, c'est une période clé de l'histoire de l'humanité, puisqu'on assiste à un bouleversement profond du mode de vie des populations à cette période. En fait, tout est parti de conditions climatiques qui sont devenues très favorables à partir de 12 700 avant notre ère. Donc on est à la fin du paléolithique. Là, les températures augmentent, le climat devient doux et humide. Ça entraîne un développement important, rapide, des espèces végétales. Donc avec des grands couvercles forestiers qui favorisent aussi les espèces animales. Bref, en fait, on a toutes les conditions qui sont au top. Cette modification du climat va influer sur les populations qui jusque-là étaient nomades. Elles poursuivaient donc les troupeaux, c'était des chasseurs-cueilleurs, et ils se déplaçaient sans cesse. Vers 8500, en fait, au Proche-Orient, on constate qu'il se produit un phénomène nouveau, avec l'émergence d'occupations humaines fixes. Et elles sont conjuguées à de nouvelles pratiques de production alimentaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. On entre donc dans l'ère du néolithique, et on est désormais capable de produire, conserver et gérer des denrées comme les céréales ou le bétail.
Donc ça signifie qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs ?
En fait, attention, ça ne signifie pas tout à fait qu'on s'arrête de chasser ni de cueillir. En fait, on est sur un mode de vie qui est un peu complémentaire, mais qui va changer indéniablement puisqu'on se fixe et on devient un peu plus sédentaire. Donc on a des ressources en grande quantité, on est plus prospère, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se reproduit. Rapidement, donc, on assiste à une poussée démographique importante qui oblige les populations à trouver toujours de nouveaux espaces à cultiver. Et plus on devient nombreux, ben, plus il faut manger.
Et donc, en fait, il faut partir. Hein. C'est ainsi que les premiers hommes arrivent en Méditerranée vers 5700. Et petit à petit, les populations gagnent de nouveaux espaces de proche en proche pour arriver ici, sur les Grands Causses et sur les Bondons, autour de 3000-2500 à peu près. On se trouve vraiment aux confins des terres les plus hospitalières. Les groupes qui investissent ce territoire sont vraiment contraints par une forte pression.
Ces groupes, d'ailleurs, ils se caractérisent par un mode de vie désormais qualifié de sédentaire. On construit les premières maisons, les premiers villages. On se déplace encore, mais manifestement, on privilégie certains lieux d'occupation. Et on y revient sur plusieurs générations. Donc les villages néolithiques que l'on connaît, plus dans le sud de la France, comme au site de Cambou ou dans l'Hérault, montrent que les constructions sont faites généralement en matériaux locaux, en pierre et ou en bois, sous forme d'unités de vie. Visiblement, les groupes qui habitaient sur les Grands Causses sont plutôt des groupes familiaux avec un habitat de petite taille, donc comme des fermes isolées, et on est plus proche du hameau que du village en fait. Le principal souci de ces populations, c'est quand même de gagner de l'espace pour produire. Ils défrichent les forêts pour créer des espaces de culture, ils élèvent des animaux, donc des moutons, des chèvres, hein, qu'ils mènent sur des parcours. Les terres nouvellement cultivées sont très vite appauvries. Et au cours d'une même génération, on doit défricher de nouvelles terres. Les analyses botaniques confirment aussi qu'une importante réduction de la forêt a lieu à partir de l'arrivée de l'homme sur le mont Lozère. Les méthodes d'énélotique sont assez destructives vis-à-vis de l'environnement et l'élevage des troupeaux favorise et accentue l'érosion des sols qui débute avec la déforestation. Ici, au Bondon, on se replace donc au temps des menhirs, c'est-à-dire à la fin du néolithique. Les populations qui viennent coloniser ces hauts plateaux connaissent la pratique de l'agriculture et de l'élevage depuis longtemps. Ils s'adaptent au climat local, mais il faut bien comprendre qu'au moment où on érige les menhirs, la déforestation est déjà importante et que le terrain est déjà exploité. On se trouve donc certainement sur un territoire très proche de celui qu'on a aujourd'hui, avec des surfaces cultivées et des portions de forêt reculées au niveau des terres les moins facilement cultivables ou au pied des versants montagneux. On est sur un milieu ouvert où on vit de l'agropastoralisme.
Et on sait à quoi ressemblait leur habitat ?
Eh bien non, on l'ignore totalement en fait, parce qu'on n'en a pas du tout retrouvé. Il y a eu une fouille de cabanes qui date de l'âge du fer, près de la carrière de Colobrière, pas très loin d'ici. C'est Gilbert Fage qui s'était occupé de cette campagne de fouille, mais rien pour la fin du néolithique.
Et puis donc, si on résume, les groupes de l'époque ne sont ni plus ni moins que des agriculteurs qui avaient des pratiques proches de celles antérieures à la mécanisation, donc en fait proches des années 50. Et physiquement, ils sont vraiment identiques à nous. Coiffure, parure, habits sophistiqués, voilà.
Ah bon ? Alors on est loin de l'image de l'homme sale en peau de bête finalement.
Ah ouais, tout à fait. Le mobilier archéologique que l'on trouve dans les tombes néolithiques, c'est-à-dire les dolmens, nous renseigne justement sur ces populations. Il atteste notamment d'échanges commerciaux assez importants qu'on avait entre groupes à l'époque et qui vont jusque dans le Bas-Languedoc, donc vers la Méditerranée. On échange aussi donc, des objets, mais aussi des savoirs, des savoir-faire, des techniques. On s'échange des nouvelles, comme quand on se rencontre, en fait. Finalement, on est vraiment très proches. Et avec pas mal donc, de trocs de mobilier qui nous renseignent finalement sur les usages de l'époque.
C'est fou, on ne se rend pas compte finalement de tout ça, Béné.
Et c'est aussi très intéressant de constater que le paysage que l'on voit aujourd'hui, en fait, il n'a rien de naturel. Il est depuis très 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 longtemps façonné par l'homme. Dès le néolithique, en fait, les populations dessinent le paysage en y développant des activités agricoles et pastorales et aussi en le ponctuant de monuments. Alors ces monuments de pierre, c'est ce qu'on appelle des mégalithes, les menhirs et les dolmens. Ludo, est-ce que tu as révisé ton breton ?
J'y ai passé la nuit.
Ok, alors que veut dire menhir ? Que signifie menhir ?
Comme ça, je dirais pierre dressée, mais c'est vraiment du hasard.
Waouh, c'est impressionnant. Effectivement, menhir vient du breton qui signifie pierre dressée. Un menhir est une pierre extraite, façonnée et dressée à la verticale, alors que dolmen vient du breton aussi, mais signifie table de pierre. Et les dolmens sont constitués de deux pierres surmontées d'une troisième. Alors ici, sur le secteur de la Champs des Bondons, le dernier recensement fait état de 200 menhirs qui ont été dressés à la fin du néolithique. On peut en apercevoir partout dans le paysage autour de nous, mais il est certain que nous ne possédons qu'une vision partielle de ces mégalithes parce que certaines pierres en fait, ont disparu.
Alors quand on parle de mégalithes, on pense bien évidemment à la Bretagne, avec les alignements de Carnac.
Et oui, mais au bon donc, contrairement à Carnac, ce sont des menhirs, c'est-à-dire des blocs, comme on l'a dit, extraits, façonnés, déplacés et installés en un lieu précis. Ce ne sont pas des blocs bruts, enfin simplement dressés comme à Carnac. Et puis comme dans toute démarche, on répond à un objectif, on suit un projet. Il faut bien comprendre qu'on ne plante pas des menhirs juste pour son plaisir, hein. C'est quand même une tâche assez ardue. Il y a un but qui nous échappe certainement, mais qui était tout à fait clair à l'époque pour la société du néolithique. De plus, il ne faut pas les considérer comme des pierres isolées, il faut avoir vraiment en tête la notion d'alignement. Ce sont des alignements de menhirs, et même si aujourd'hui il existe certains vides.
Alors il y a des théories hein, sur les dispositions de menhirs, je ne sais pas si on y viendra dans cette émission, mais on ne sait pas vraiment, tu as raison. Comment les fabriquer, est-ce qu'on le sait?
Ah oui, bonne question. On peut déjà observer, donc, rien qu'en regardant quelques menhirs qui sont autour de nous, qu'on se trouve face à des blocs de granit et pas de calcaire. Hein. Donc le matériau a toute son importance ici, et c'est aussi ce qui en fait un lieu exceptionnel. Hein. On a des menhirs de granit sur un sol calcaire. On a dû bien aller chercher ce granit quelque part. Donc en fait, il s'agit de blocs massifs, relativement effilés, hein, donc plus large à la base et effilés au sommet, avec un aspect assez rond. On n'a pas d'arête droite, pas de ligne cassante. Les menhirs sont vraiment très ronds, très doux presque en fait. Et ça relève que les blocs proviennent de lieux où les roches ont subi des dégradations naturelles qui ont fatalement émoussé la pierre au fil donc, de plusieurs millénaires. Tous les menhirs des Bondons proviennent d'affleurements de granit où l'érosion a travaillé pour les hommes. Et ces blocs possèdent naturellement un aspect longiligne, comme si on avait à ces endroits des menhirs quasi tout près. En fait, on a trois faces qui sont déjà faites. Il ne manque plus qu'à détacher le bloc de son affleurement et le tour est joué. Donc en fait, on le fait grâce à de la percussion, de la pression. Et quand le bloc est détaché, on rectifie les bords pour les adoucir. Le travail du bloc se passe à la carrière et ensuite il faut transporter le bloc sur le lieu défini grâce à du roulage. Et ça sous-entend aussi qu'on a préparé hein, donc ce futur trajet.
Alors il y a une autre particularité pour les menhirs des Bondons, c'est qu'ils ne sont pas fondés. En fait, on s'est rendu compte que leur base elle était plane et qu'ils étaient tout simplement posés sur le calcaire qui était juste préparé. Il n'y a pas de fosse ou de blocage, ce qui explique aussi pourquoi de nombreux menhirs étaient tombés lors de leur découverte dans les années 40. Alors aujourd'hui, plus de 70 ont été relevés, mais par contre là, quand on a choisi de les relever, on a décidé de les enterrer d'environ 30 à 40 cm et on a scellé tout ça avec une dalle de béton pour bien les maintenir en place.
Bon, Cécile ne veut pas nous en parler, mais on va peut-être que toi tu vas nous le dire. Pourquoi on les érige? C'est la question que tout le monde se pose.
Oui, ben moi aussi je vais te décevoir, en fait on ne le sait pas. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été émises sur l'origine des menhirs, des plus rationnels aux plus farfelus, aux plus ésotériques. Mais ils gardent une grande partie de mystère et c'est pas mal comme ça. Hein. On peut imaginer que cela permet de prouver l'appartenance d'un territoire à une communauté ou peut-être, comme dans certaines ethnies contemporaines, d'incarner un ancêtre ou un événement marquant.
Comme on l'a dit tout à l'heure aussi, les menhirs forment des alignements qu'on a du mal à saisir depuis le sol, mais sur une carte, on se rend compte qu'ils suivent aussi les lignes de crête. Il peut y avoir 1, 2, 3 menhirs au même endroit. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a un cas où on a 5 menhirs, et puis d'autres, ils sont très grands. Ils font, le plus grand fait 6 mètres de haut. D'autres petits, on a vraiment une très grande variété de blocs, sachant qu'on n'en a encore qu'une seule partie. Par contre, même si on n'a pas de réponse, on sait que cette concentration est anormale et qu'on ne la retrouve nulle part ailleurs en Europe.
Alors là, c'est un sentier de balade hein, qui est intéressant. Et on le voit, cet alignement par moment, cet alignement de menhirs. On est maintenant devant un autre monument. Là, c'est quoi, Béné?
On est devant un dolmen. Il s'appelle le dolmen des Combes. Alors, parmi les monuments mégalithiques, hein, les dolmens sont mieux connus que les menhirs. Ils sont liés à des pratiques funéraires à partir de 3500 et pendant toute la fin du néolithique. Alors dans ces sépultures collectives, les morts sont déposés avec quelques objets personnels. Alors comme le disait Cécile tout à l'heure, hein, les pratiques funéraires offrent de précieux indices sur les croyances et l'organisation d'une société ancienne. Ces monuments sont souvent positionnés dans des endroits dominants, qui rappellent certainement aux vivants le souvenir des anciens. Le dolmen des Combes est un dolmen à chambre simple qui date du néolithique, mais il a été réemployé à l'âge du bronze, comme en témoignent les restes d'une incinération qui a été retrouvée lors des fouilles.
Donc ouais, avec le dolmen des Combes, on se situe toujours à l'extrême fin du néolithique. Et on sait qu'à cette période, donc on est autour de 2200-2100, donc avant notre ère en France, et que la période est marquée par un abandon généralisé de l'habitat des Grands Causses, et ce pendant à peu près 1000 ans.
Et on sait expliquer ce phénomène ?
En fait, c'est un abandon volontaire qu'on constate, hein, qui est combiné à un effondrement démographique assez important. C'est un phénomène nouveau, hein, après la période de croissance qui a été connue tout au long du Néolithique. On a quelques pistes sur les raisons de cette régression, mais on peut voir que de nombreuses tombes révèlent des blessures, des traumatismes, en tout cas sur les squelettes des individus. C'est probablement une période de guerre, de combat, qui atteste de conflits sociaux. Ensuite, on a aussi retrouvé des sépultures catastrophes ou sépultures de crise. En fait, c'est un mode de sépulture assez inconnu jusque-là, où il y a un très grand nombre d'individus qui est incinéré en même temps, et ce pendant une période très courte. Donc on va détruire par le feu des corps qui peuvent présenter potentiellement un danger pour les vivants. Donc on n'a aucune certitude sur la cause de ces sépultures de crise. Par contre, ça peut révéler peut-être des épisodes d'épidémie, voire d'épizootie, c'est-à-dire en fait, comme actuellement, des maladies qui viennent de l'élevage et des animaux. À partir de 2200, donc avant notre ère, par contre, on est sûr, il n'y a plus de nouveaux menhirs, plus de dolmens, et le territoire est relativement abandonné jusqu'à à peu près la fin de l'âge du bronze, autour de 1400.
Allez, on va poursuivre notre chemin un peu. Allez, on est remonté, on est maintenant devant un tas de cailloux, hein, disposé en rond.
Oui, un tas de cailloux, on dirait plutôt une grosse fleur avec des pétales bien ouverts et une dallette au milieu. En fait, il s'agit d'un tumulus. Donc c'est une tombe, mais qui n'est pas du tout contemporaine des menhirs. En fait, avec les menhirs, on est vraiment autour de 3000-2500 avant notre ère. Et cette tombe-là, elle date de la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer. Donc on est plutôt autour de 900-800 avant notre ère. Et contrairement au dolmen, en fait, c'est une tombe individuelle. Le défunt, en plus, est incinéré, il n'est pas inhumé. Et avec les restes qu'on met dans une urne, on le place au centre donc, de la tombe et on met un petit enclos de dalles levées tout autour. C'était recouvert d'un petit tertre d'amas de cailloux, de terre. Et en fait, en s'effondrant, ça a donné cette forme ouverte de fleurs. Des fois, on peut confondre aussi parce que le petit tas donc, de terre qui recouvre la tombe s'appelle un tumulus. Et on a aussi des tumulus donc, sur les dolmens, ce sont les gros amas de cailloux. Et par extension, en fait, on a appelé toutes les tombes de la proto-histoire, donc de l'âge du bronze et du fer, tumulus, alors que, voilà, il faut éviter de confondre les deux termes. Mais bon, écoutez, c'est pas grave si on vous en voudra pas.
Bon, maintenant Ludo, est-ce que tu sais qu'en Lozère, des femmes et des hommes ont beaucoup fait pour la préhistoire ?
Non, je l'ignore.
Dès le 19e siècle, en fait, il y a des érudits locaux et des archéologues amateurs qui ont parcouru la Lozère pour prospecter, pour collecter, pour recenser tous les sites préhistoriques. Alors, il faut absolument aujourd'hui qu'on te parle du docteur Prunière, hein, qui est né en 1828 et qui est mort en 1893. Pierre Barthélemy Prunière, il est très important. Il est d'abord né à Nazbinal, puis il va devenir médecin à Marvejols. Et en fait, c'est un archéologue amateur. Il va fouiller plus de 300 sites lozériens en privilégiant l'examen des ossements, l'étude des maladies et même les traitements utilisés à la préhistoire. Alors, il exhume les premiers indices de trépanation préhistorique en Lozère. Il va révéler ses découvertes avec l'aide du professeur Broca à la connaissance du monde scientifique. L'essentiel de sa collection est conservé au Musée de l'Homme à Paris et il est considéré vraiment comme le père de la paléopathologie. Alors la paléopathologie, c'est une branche de la médecine spécialisée dans les pathologies des populations du passé.
Alors c'est vrai, lors d'une visite radiophonique de Noël, Vincent en avait parlé et on a vu aussi un crâne trépané au Musée du Gévaudan. Est-ce qu'on sait à quoi sert cette pratique ?
En fait, les crânes trépanés sont une vraie spécificité de la Lozère. Comme vous l'avez vu, en fait, ce sont des crânes dans lesquels on a pratiqué un trou pour X raisons. En réalité, il en existe très peu en France, mais sur le Causse, on en décompte 213 de ces crânes trépanés. Et près de la moitié, en fait, a été découverte dans les grottes des Baumes Chaudes. C'est un acte chirurgical de toute façon par excellence. Vous imaginez, vous, faire un trou dans le crâne de votre collègue ? Bon, en fait, il faut vraiment avoir des très très bonnes connaissances anatomiques et techniques pour procéder à ce type de chirurgie. Donc le docteur Prunière a justement étudié la totalité des crânes. Et il a mis en lumière cette pratique. Et il faut savoir quand même qu'il y a 70 à 80% des petits patients causenards qui ont résisté et qui ont survécu à l'opération. Donc il y en a même qui ont subi, on va dire, 2 à 3 trépanations. et qui ont survécu. Donc c'est quand même c'est fou. Et certains Cosnards donc ont été de véritables experts dans cette pratique apparemment. Après, dire s'il s'agit simplement d'un acte chirurgical à but médicinal ou si ce sont des actes rituels liés aux croyances ou aux rites culturels, ben joker quoi.
Bon, on peut aussi parler d'un autre archéologue amateur important, hein. C'est Charles Morel. Alors lui, il est né en 1893 et mort en 1968. C'est lui aussi un médecin et il va révéler l'importance de l'ensemble mégalithique des Bondons. En 1940, il va publier le premier inventaire du site où il dénombre 150 menhirs. Et enfin, on ne peut pas visiter la chambre des Bondons sans évoquer, sans mentionner l'archéologue Gilbert Fage, hein, qui est né en 1941 et qui est décédé récemment en 2022. Alors c'est un Cosnard passionné par son territoire. Il était soucieux de la préservation des vestiges du passé à une époque où peu de gens s'y intéressaient en fait. Et donc il va travailler pour la DRAC en tant que technicien en charge de la carte archéologique de Lozère. Il assure la conduite de fouilles et la gestion du dépôt archéologique de Banassac. Pendant un quart de siècle, il documente avec rigueur la carte archéologique nationale en inventoriant plusieurs centaines de sites lozériens. Alors les Bondons n'avaient plus de secret ou presque pour lui. Il a découvert des menhirs et surtout avec l'opération menée en collaboration avec le Parc national de Cévennes, il en a retracé de nombreux tombés au sol, ce qui a vraiment sauvé le site. Gilbert Fage est vraiment un acteur très important de la protection et du relevage des menhirs de la chambre des Bondons.
Et aujourd'hui, il y a Philippe Galland, en fait. Donc, il travaille à la DRAC Occitanie. Il est ingénieur en charge du patrimoine souterrain, du patrimoine mégalithique et du patrimoine néolithique. C'est un grand spécialiste des grottes ornées du sud de la France. Et il a beaucoup travaillé aussi avec Gilbert Fage. Donc, il est désormais la personne incontournable en matière de connaissance du site des Bondons et sur la question du néolithique sur l'Écosse.
Allez, on est revenu à notre point de départ. En tout cas, c'est une chouette balade à faire que je vous invite à faire, mais alors plutôt au printemps, hein, voire en été. Et en plus, il y a une grosse actualité, hein, sur ce site, Cécile.
Eh bien oui, parce qu'en fait, là, le département est sur un gros projet patrimonial. Donc, on est en train de créer un centre d'interprétation du site des Bondons qui devrait normalement ouvrir en 2026. Il est en cours de construction et le chantier est déjà bien avancé, en fait. Ce sera un lieu dédié donc, au site dans lequel le grand public pourra retrouver les éléments dont on a parlé aujourd'hui, avoir de meilleures connaissances sur la période du Néolithique et surtout sur les sociétés qui ont érigé les menhirs. Pour ça aussi, on travaille aussi, et évidemment, en collaboration avec les grandes structures, comme l'entente Cossé-Cévennes et le Parc national des Cévennes, puisqu'on est quand même sur un territoire exceptionnel. Et justement, pour faire un peu le lien, il existait un sentier des Bondons, un sentier des menhirs qui avait été ouvert par le parc il y a quelques années, qui est justement en train d'être revalorisé, renouvelé, pour être en cohérence totale avec le centre qui parlera. Enfin voilà, il y a vraiment un jeu de liens, enfin une complémentarité entre les deux sites. Et on aura aussi un petit troisième élément, qui ce sera un belvédère, sur lequel on aura plutôt un point de vue géologique, où on parlera des pêches et vraiment de toute la spécificité des Bondons.
Voilà, pour compléter cette actualité, il faut savoir que le Parc national des Cévennes et le Pays d'Art et d'Histoire ont chacun développé des mallettes pédagogiques pour permettre de découvrir le néolithique et la préhistoire en Lozère. Alors il ne faut pas hésiter à nous contacter, hein, si vous voulez monter un projet autour de ces thématiques.
Pour terminer cette émission, on a une anecdote pour briller en société.
Une anecdote, je ne sais pas, mais en tout cas une petite colle. Savez-vous qu'il existe des faux menhirs en fait? Ça date en fait du moment où il y a eu le relevage de menhirs. Ben, certains agriculteurs ont été poussés par des élans et en fait ils ont élevé leurs propres menhirs. Donc il y en a certains, des faux, qui se trouvent entre la carrière de Colobrière et le village de la Vessière. Donc à vous de débusquer les faux des vrais menhirs.
Eh bien, merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Béné. Béné, on va aller où le mois prochain?
Allez, on va redescendre au chaud dans la vallée la prochaine fois.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.